Bonjour, une nouvelle crise migratoire se profile-t-elle en Europe ? Le président turc Erdogan aurait, dit-on, ouvert les frontières de son pays avec la Grèce, menaçant l'Europe du déferlement de millions de migrants. Alors, en attendant, ce qui déferle vraiment, ce sont des vidéos confuses et contradictoires en provenance de ces frontières de l'Europe et des analyses tout aussi contradictoires sur la stratégie d'Erdogan, sa stratégie en Syrie, sa stratégie avec la Russie et sa stratégie par rapport à l'Europe et aussi, pourquoi pas, sa stratégie par rapport à l'OTAN. Alors, de cet Orient compliqué, nous allons tenter de dégager quelques idées simples avec le concours de nos trois invités, Linda.
Didier Billion, bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient. À côté de vous, Guillaume Perrier, vous êtes journaliste indépendant, auteur de « Dans la tête d'Erdogan », paru aux éditions Actes Sud. Et je précise que vous avez été le correspondant du Monde à Istanbul de 2004 à 2014. Avec nous par Skype, celle qui vous a succédé à ce poste, donc Marie Jégot, journaliste correspondante du Monde, basée donc à Istanbul depuis 2014.
Voilà, et alors avant de venir en Turquie et sur les frontières terrestres turco-grecques, dans un premier temps, aller dans l'île grecque de Lesbos, d'où nous sont venues cette semaine les images les plus fortes, les images d'ailleurs qui nous ont décidé à faire cette émission, Linda.
Séquence terrible, elle a été relayée par plusieurs internautes, notamment le député européen Raphaël Glucksmann, qui a exprimé son indignation sur Twitter à la vue de ces images. On y voit des gardes-côtes grecs sur un bateau attaqué à coups de perche des migrants entassés sur un canot pneumatique. Sur un autre plan, il y a un bateau identifié comme celui des gardes-côtes grecs qui passe à toute vitesse, l'embarcation qui manque de peu de chavirer. Et la vidéo passe encore à un autre plan et tout d'un coup, des gerbes d'eau éclaboussent les migrants. On entend deux tirs provenant du bateau des gardes-côtes en direction de l'embarcation.
Et on voit d'ailleurs sur l'image que les gardes-côtes sont armés. Alors, ces images, évidemment, ont été exploitées par la télévision turque.
Oui, par la TRT, la principale chaîne turque, comme le montre l'émission Quotidien qui a diffusé cette vidéo traduite en français. On écoute.
Regardez comment ces migrants essaient de s'accrocher à la vie. Regardez aussi comment les gardes-côtes grecs les tapent avec des bâtons en fer et essaient de les couler. Ce sont des images choquantes qui prouvent que la stratégie de la Grèce sur les réfugiés n'est basée que sur la violence.
Alors, riposte en images de la télé grecque.
Alors, des gardes-côtes grecs, c'est eux qui ont filmé et diffusé une vidéo où l'on voit un bateau turc escorter un canot de migrants vers les îles grecques. Voilà.
Oui, et donc, quelle leçon en tire la télé grecque ? Qu'est-ce qui déduisent de ces images où on ne voit pas grand-chose ?
Alors justement, le bateau a été escorté vers les îles grecques par les Turcs.
Par les gardes-côtes turcs.
Voilà.
Donc, sous-entendu, les gardes-côtes turcs poussent les migrants vers nos côtes. Alors, Marie Jégot, j'imagine que vous avez vu ces images à Istanbul. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement turc, Erdogan, a voulu envoyer un message, et quel message et à qui ?
Alors, clairement, c'est un message aux Grecs déjà, mais à l'Union européenne plus largement. Il s'agit, je pense, pour le président Erdogan de faire le forcing pour obtenir davantage d'aide pour les réfugiés, voire une aide peut-être militaire pour la situation à Idlib, où son armée est quand même mal en point.
Ce serait ça le but. Est-ce qu'on a des éléments sur place qui laissent penser qu'on a poussé ces migrants à prendre ces canots pour se diriger vers Lesbos, ou au moins qu'on ne les a pas empêchés ?
Oui, bien sûr, les éléments sont très nombreux. Il y a d'abord, alors on l'a moins vu pour les départs vers la mer Égée, mais pour ce qui est des départs vers la frontière terrestre avec la Grèce, là, ils ont été clairement organisés avec des autobus, etc. Je veux signaler aussi que sur la côte égéenne, d'où sont parties ces embarcations qu'on voit à l'image, eh bien, des centres de rétention de migrants dont celui d'Aïvalik, qui était en partie d'ailleurs financé par l'Union européenne, a été vidé de ces migrants. Ça veut dire que donc on les encourage, enfin en tout cas on les laisse partir. Et les Turcs l'ont dit très clairement dès la semaine dernière, jeudi, on ouvre les portes et des consignes ont été données aux gardes-côtes, aux gardes-frontières de fermer les yeux sur le passage de ces réfugiés.
Comme vous dites, ils l'ont dit très clairement, c'est même par la voix du président Erdogan, hein, Linda.
Oui, Erdogan a fait plusieurs déclarations depuis l'ouverture des frontières vers l'Europe. Il se montre d'ailleurs très insistant sur le nombre de migrants qui affluent selon lui à la frontière gréco-turque, comme on peut l'entendre sur ces images de la présidence.
Depuis le moment où nous avons ouvert nos frontières, le nombre de ceux qui se sont dirigés vers l'Europe a atteint les centaines de milliers. Et il y en aura plus. Bientôt, ce nombre s'exprimera en millions.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Marie Jégot? Est-ce que le but d'Erdogan, Didier Billion, est d'obtenir un soutien militaire européen, militaire ou financier?
Non, je nuance avec Marie Jégot. C'est qu'à mon avis, ces images qui ont été largement relayées par les médias turcs ont une fonction de politique intérieure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Erdogan, une fois de plus, essaye de jouer le rôle de la forteresse assiégée. Tout le monde est contre lui, notamment les Européens. Et la preuve, alors que des migrants veulent partir, des réfugiés plus précisément d'ailleurs, ce serait le meilleur terme, veulent partir, eh bien on les empêche de façon quasi-militaire. Donc c'est la preuve qu'il y a d'un côté les méchants, les autres, et que nous, qui les avons accueillis, bah, nous restons les bons. Donc il faut bien comprendre.
Il a besoin de dire ça en interne. Il a besoin de dire ça à l'opposition turque.
Nous sommes dans une situation en Turquie de polarisation des positions politiques. Alors ça là, s'étend dans la durée depuis plusieurs années, mais là il y a incandescence puisqu'il y a des opérations militaires et qu'évidemment, pour entre autres raisons. Il y a des raisons de politique intérieure, c'est-à-dire que M. Erdogan, une fois de plus, agite la fibre nationaliste qui est toujours à fleur de peau en Turquie et qu'évidemment, il veut se présenter comme dans son bon droit. Il essaie de justifier ses positions. Le petit problème, c'est que les cercueils commencent à arriver, à revenir vers la Turquie, des soldats qui sont morts en combat, qui sont dénommés là-bas les martyrs, et qu'il a donc besoin de chauffer l'opinion public à blanc pour la convaincre que la Turquie est dans son bon droit. Donc je pense qu'il y a une fonction de politique intérieure. Je ne crois
des,
pas.
Des soldats qui sont, soyons précises, que des soldats qui ont été tués dans les affrontements avec les Syriens.
Absolument. On se souvient que jeudi dernier, il y a 8 jours, il y a eu 34 soldats turcs tués en une frappe. Et donc, évidemment, ça a suscité beaucoup d'émotions qu'on peut considérer comme légitimes. La question qu'on peut se poser, c'est que faisaient ces soldats sur le sol syrien? C'est un autre aspect du débat. En tout cas, ce qui est clair, c'est que je ne crois pas que M. Erdogan attende quelque initiative militaire de la part de l'Union européenne. D'ailleurs, ça tombe bien, puisque les Européens n'ont nulle envie, nul désir et nul projet d'intervenir militairement. D'accord. Dans cette région.
Donc, ça fait déjà deux motivations potentielles d'Erdogan à faire partir ses canaux vers Lesbos. Vous allez en trouver une troisième?
Il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres, évidemment. Moi, ce que je voudrais quand même souligner, c'est que ces images qu'on a vues des gardes-côtes grecs ont été tournées par les autorités turques et ensuite distribuées aux médias. Je pense que déjà, en termes de sources, c'est un détail qui me semble assez important. Ce qui n'enlève rien à la véracité de ces images, bien évidemment, ce sont des pratiques en mer Égée qui sont connus depuis extrêmement longtemps.
À la véracité ni à l'inhumanité.
Enfin, absolument, voilà, absolument. Il est évident que c'est un comportement totalement antidémocratique et illégal de la part des gardes-côtes grecs. Moi, mes premiers reportages sur cette question en mer Égée datent de 2005. Ces pratiques étaient déjà courantes à l'époque. Ce qu'on appelle les pushbacks, hein, les reflux de migrants par les gardes-côtes grecs, mais aussi les envois forcés par les gardes-côtes turcs. Donc, si vous voulez, les flux migratoires ont toujours été instrumentalisés d'un côté et de l'autre avec des pratiques qui sont totalement inadmissibles.
Ah, il n'y a rien de neuf alors?
Rien de neuf
sur le soleil. Parce que les images ont provoqué une énorme émotion. C'est le fait de voir des Grecs effectivement refouler et tirer sur des migrants.
Le fait de le montrer provoque une émotion. Oui. Mais si vous voulez, la réalité de ces pratiques est très ancienne. Depuis au moins 15 ans, ce genre de pratique a cours dans la mer Égée.
Mais encore une fois, les gardes-côtes turcs ne le filmaient pas.
le filmait sans doute, mais en tout cas ne diffusait pas les images.
Ne diffusait pas.
Puisqu'il y avait un accord migratoire entre la Turquie et l'Union européenne et que diplomatiquement, ça n'était pas une arme à dégainer à ce moment-là. Donc, si vous voulez, le fait de diffuser ces images, évidemment, il y a une intention politique derrière. Alors, pour les raisons que Didier Billon vient d'expliquer, pour d'autres raisons aussi, je pense qu'il faut aussi avoir en tête en ce moment les rapports un peu particuliers qu'il y a entre la Turquie et l'Union européenne, et plus particulièrement avec la Grèce. Et les sources de conflits sont multiples en ce moment. Le partage des ressources énergétiques en Méditerranée, les atteintes à la souveraineté de la Grèce et de Chypre par la Turquie. On nourrit toutes ces tensions depuis des mois et donc aujourd'hui, ces migrants sont instrumentalisés dans ce but-là.
– D'accord, juste sur la politique intérieure turque, vous disiez il y a un objectif de politique intérieure. De fait, alors, encore une image un peu mystérieuse qui est arrivée, c'est une image de quasi-pugilat, Linda. –
Oui, une bagarre a éclaté au Parlement turc lors d'un débat sur l'implication justement militaire de la Turquie à Idlib. Et cette vidéo a été enregistrée lors de la séance qui montre des dizaines de députés du parti du président Erdogan AKP et l'opposition, le parti républicain du peuple en pleine altercation. Certains d'entre eux en sont venus jusqu'aux mains et la séance a évidemment été interrompue.
– Alors, bon, vu d'ici, on n'y comprend pas grand-chose. Marie Jégou, vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé là ?–
C'est un député kémaliste, député de l'opposition qui a critiqué Erdogan en termes très très crus, très violents, en lui reprochant cette opération militaire à Idlib que la plupart des Turcs n'approuvent pas. Et d'autant plus qu'il y a aujourd'hui 60 morts.
Turcs.
Oui.
Et alors, d'accord. Et donc, ce qu'on voit là, c'est quoi ? C'est ce qui suit le fait.
Alors, c'est entre ce député et les députés du parti présidentiel, et plus largement entre les députés de l'opposition et les députés du parti présidentiel, qui se. Bon, ça arrive assez souvent. Ça arrive quand même.
Oui, oui. C'est vraiment très fréquent pour ceux qui suivent un peu l'actualité en Turquie. Nous sommes habitués à voir ces pugilats-là probablement plusieurs fois par an. Alors à chaque fois, il suffit que la parole d'un député ne plaise pas au groupe parlementaire opposé pour que ça dégénère immédiatement. C'est une des singularités de la vie parlementaire en Turquie.
– D'accord, il ne faut pas se poser de questions. –
On doit s'en poser, mais ce n'est pas étonnant.
– C'est normal. Alors, on a prononcé le nom d'Idlib plusieurs fois depuis le début de cette émission. Alors, on va essayer de comprendre ce qui s'y passe. Et pour essayer de comprendre ce qui s'y passe, on va y entrer par le biais de l'explication qui est donnée par une chaîne française, Linda, la chaîne CNews, dans l'émission désormais familière à nos abonnés d'un nommé Éric Zemmour.
– Oui, alors au lendemain de la décision du président turc d'ouvrir ses frontières, les chaînes d'infos ont tenté de décrypter sa stratégie politique. Qui sont ces migrants à qui Erdogan a ouvert le passage vers l'Europe? Comment s'y est-il pris pour convaincre des milliers d'hommes et de femmes ainsi que des familles avec enfants d'affluer à la frontière gréco-turque? On écoute les explications du journaliste Harold Ayman et Éric Zemmour sur CNews.
Eh bien voilà, il a ses 900 000 réfugiés, mais il ne les laisse pas sortir, c'est pas du tout eux qui sortent. Frontière fermée à Idlib. Par contre, il a pris ce qu'il y avait à Istanbul et les a envoyés à la frontière.
Donc il s'est bien fermé la frontière au sud, il s'est bien fermé la frontière au sud avec la Syrie, et par contre, sur le nord, voilà, là il a commencé à ouvrir.
Il a envoyé à Lesbos et à Edirne. Allez-y, il a même fourni les bus, vous le disiez au début.
Les bus et les cartes, paraît-il.
Et les cartes,
il a même donné des cartes vers l'Europe, bien sûr.
Des cartes géographiques.
Ah, pour ne pas rater l'Europe.
Exactement.
Oui, oui,
c'est une blague.
Oui, oui,
ah non, pas du tout.
Et avec des haut-parleurs en farsi. Parce qu'en fait, ces 13 000 qu'on a vus, la moitié sont afghans. Donc ils parlent farsi, enfin dari.
Alors, monsieur le spécialiste, est-ce que vous souscrivez à cette explication?
C'est insupportable. Je crois que là, on a la quintessence de ce que peut produire ce type de médias, et notamment M. Zemmour. Il y a une sorte de mélange de dilettantisme, de cynisme, de café du commerce. Mais on va sûrement écouter la suite qui va nous donner la clé politique de ce type d'attitude.
– Mais alors déjà, sur ce qu'on vient d'entendre là.
– Déjà sur la carte, vous voyez, on voit la Syrie avec 900 000 réfugiés. Déjà factuellement, c'est totalement faux. Il y a 900 000 déplacés. Comment peut-on être réfugié syrien en Syrie? Non, déjà dans la précision des termes. Après, 3 600 000 réfugiés permanents.
– En Turquie.
– En Turquie, encore faudra-t-il préciser syrien, parce qu'en réalité, nous savons qu'il y a plus de réfugiés. Alors, il y a effectivement des Afghans, des Irakiens, etc. Sur le chiffre, on peut discuter. Et puis, alors, on entend dans le pseudo-débat On a fourni des bus. Marie Jégot nous l'a parfaitement confirmé. Il y a eu des départs de bus organisés et, comme par hasard, des districts d'Istanbul qui sont tenus par des mairies AKP, le parti de M. Erdogan. Donc là-dessus, c'est documenté. On a des photos, on a des images, etc. M. Hellman en rajoute en disant « on fournit des cartes de l'Union européenne ». Peut-être Marie peut nous donner des informations, ou Guillaume, moi je n'ai jamais entendu cela, mais l'air de dire on leur fournit des cartes géographiques pour qu'ils puissent se déplacer en Europe.
Alors, je crois que Marie peut fournir des informations sur les cartes.
Oui, moi ce qui m'a choqué, les cartes, je n'ai pas vu ça, j'ai vu beaucoup de réfugiés, il n'y avait pas de cartes. Ce qui m'a choqué, c'est l'assertion qu'il y avait des haut-parleurs qui diffusaient. Alors là, c'est très antique parce que ce n'est pas par les haut-parleurs que ça s'est fait, c'est par les réseaux sociaux, bien sûr. Les groupes WhatsApp, les groupes Facebook en arabe, en dari, qui est la langue parlée par les Afghans, qui sont majoritaires, il faut le rappeler, à cette frontière turco-grecque. Et c'est par là que l'incitation s'est faite dès jeudi soir. À peine le président Erdogan avait dit j'ouvre les frontières, on ouvre les frontières, que déjà tous ces réseaux sociaux se mobilisaient et appelaient les gens à partir, leur indiquant d'où partaient les bus, à quelques centaines de mètres d'ailleurs de la préfecture de police d'Istanbul, soit dit en passant. Donc on voit que tout ça était quand même très coordonné et que les réseaux sociaux ont été incités, probablement manipulés. On a ranimé des associations syriennes qui étaient... qui ne marchait plus, qui était un peu en sommeil. Et donc tout ça a été, on peut l'imaginer facilement, instrumentalisé par le pouvoir, évidemment.
Oui, bon, la récupération politique par les gens qui sont autour de ce plateau sur CNews me paraît évidente et je n'ai pas tellement envie de commenter ça. Effectivement, il y a 900 000 personnes déplacées, qui ne sont pas des réfugiés, ce n'est Syriens en Syrie, donc ce n'est pas réfugiés. Il y a 1 million de personnes déplacées d'Idlib à la frontière turque.
Mais qui cherchent à entrer en Turquie?
Non, qui l'absolu aimeraient rentrer en Turquie, mais ils sont bloqués par un mur. Et si vous voulez, l'armée turque empêche tout passage depuis la Syrie vers la Turquie depuis un certain temps déjà. Il n'est pas question pour la Turquie d'accueillir plus de réfugiés. Et c'est tout l'objet de ce chantage. C'est-à-dire que la Turquie, effectivement, bloque en Syrie les gens qui aimeraient fuir vers son territoire et en même temps essaye de se débarrasser des Syriens qui sont déjà sur son territoire et qui sont des réfugiés, alors qu'ils n'ont pas le statut de réfugiés, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus les appeler réfugiés, ils n'ont pas le statut de réfugiés en Turquie, mais qui sont des déplacés de la guerre vers la Turquie et qui aujourd'hui se trouvent dans une situation qui d'abord sont poussés à partir par l'économie et par la situation politique interne en Turquie. Donc ce qu'il faut bien comprendre…
C'est-à-dire
que la crise économique en Turquie aujourd'hui rend la survie très difficile pour tous ces Syriens. Ils ont survécu depuis des années de petits boulots, souvent travaillant comme des bêtes de somme dans les usines. Aujourd'hui, l'économie turque n'est plus à même d'absorber cette main-d'œuvre et surtout, la population turque est devenue hostile aux réfugiés syriens, tout comme l'est la population européenne, si vous voulez. Donc il y a aujourd'hui une dimension de politique interne pour Erdogan qui fait qu'il est poussé à se débarrasser d'une partie de ces migrants syriens.
– Alors on voyait sur la carte de CNews le chiffre quand même faramineux de 3,6 millions ce qu'ils appellent réfugiés permanents. Erdogan peut avoir le désir ou la possibilité de les repousser tous vers la Grèce.
C'est la menace qu'il agite depuis 2016 maintenant. Pourquoi depuis 2016? C'est qu'en mars 2016, l'Union européenne et la Turquie ont signé un pacte migratoire. Un pacte migratoire qui fait, pour schématiser, de la Turquie le garde-frontière de l'Europe. Ce pacte migratoire, je me souviens avec Didier, on a eu beaucoup de discussions à l'époque sur ce sujet, pour moi, a toujours porté en lui les germes de cette crise aujourd'hui. C'est-à-dire que dès 2016, on pouvait tout à fait anticiper ce qui se passe aujourd'hui. Et malheureusement, l'Europe, par faiblesse politique, par manque de courage, a préféré sous-traiter à Erdogan la question des migrants plutôt que de chercher à régler le problème elle-même. Et donc aujourd'hui, Erdogan sait qu'il a cette carte en main et il en joue, il en abuse de manière totalement éhontée par rapport aux Européens qui sont effectivement pris dans ce chantage.
La méthode utilisée par Erdogan est tout à fait insupportable. Ce chantage cynique, cette instrumentalisation de la misère humaine, évidemment. Pour autant, d'accord avec Guillaume, l'Union européenne porte une part de responsabilité énorme. Quand l'accord, le pacte migratoire, a été signé en mars 2016, l'Union européenne avait promis de verser 6 milliards d'euros en contrepartie de l'accueil, je mets le mot accueil entre guillemets, de ces réfugiés. Une partie seulement a été versée, mais à la limite, ce n'est pas du tout le problème. Ce qui est important, c'est que...
Oui, quand même. Mais combien sur
c'est un peu pas plus, tout à fait exact.
Un peu plus de la moitié a été versée, mais parce que les Européens expliquent qu'en fait, ces 6 milliards devaient être attribués à des projets précis portés par des ONG. Et ils arguent du fait que les ONG n'ont pas suffisamment fourni les projets clés en main susceptibles d'être financés. Bon, là, on peut discuter.
Erdogan voudrait que ça aille dans la poche du gouvernement, c'est quand même ça le problème.
Alors, les Turcs, le gouvernement turc dit... Alors, je donne ces chiffres avec grande précaution en disant que c'est le gouvernement turc qui évoque qu'il y a eu 25 milliards d'euros de dépensés pour les réfugiés, dont 15 milliards à la charge du seul État turc. Je pense que ces chiffres sont un peu gonflés, mais ce qui est clair, c'est ce que je voulais dire, c'est que quand même la Turquie a accueilli 3 600 000 réfugiés syriens. Et que l'Union européenne, on s'en souvient bien, notamment 2015-2016, dès que quelques centaines, quelques milliers arrivaient, c'était des pataquès médiatiques de toutes sortes, et politiques, bien évidemment, avec toutes sortes de déclarations. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'en mars 2016, eh bien, l'Union européenne s'est frotté les mains de la situation.
Voilà, c'est ça. Votre geste.
Ouais, absolument. en mettant, vous me passerez l'expression, la poussière sous le paillasson. C'est-à-dire qu'ils ont acté, ça a été signé, on vous a promis 6 milliards, même si tout n'a pas été versé, peu importe, c'est assez secondaire. Et puis on s'est débarrassé de cette question en pensant que c'était réglé. Évidemment non, c'était pas réglé, c'était explosif. Et ce que rappelle Guillaume est tout à fait juste. C'est-à-dire que pendant toute une époque, la question du nombre de réfugiés n'a pas été un enjeu politique en Turquie. Ça s'est modifié depuis à peu près un an, notamment depuis les élections municipales du printemps dernier. On se rappelle que les deux principales villes du pays, Ankara et surtout symboliquement Istanbul, ont été perdues par le parti de M. Erdogan. Et c'est à ce moment-là que s'accélère l'instrumentalisation par Erdogan de cette question des réfugiés. C'est insupportable, mais c'est comme ça.
On voit bien. Pourquoi l'action militaire de la Turquie à Idlib est-elle contestée par une partie de l'opinion turque ?
Ben d'abord parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de cette... qu'est-ce que la Turquie est en train de faire en Syrie, alors qu'il faudrait se concentrer peut-être sur les problèmes internes, dépenser beaucoup d'argent pour le déploiement d'armes et surtout la frappe quand même, en une frappe aérienne la semaine dernière, comme l'a dit Didier, il y a quand même 33 soldats turcs qui ont été tués, et on peut craindre que ce soit plus, puisque même le président Erdogan, en parlant, a dit qu'il y en avait 36. Il faut quand même rappeler ici qu'au niveau des chiffres, on a un petit problème ici, parce que quand on nous dit que 130 000 réfugiés sont passés côté grec, sont en train d'essayer de passer côté grec par la terre. Moi, je suis allé là-bas, j'ai sillonné pendant 2 jours la frontière le long du fleuve, comme tous mes collègues, et on n'a pas trouvé, les Grecs ne les ont pas vus non plus d'ailleurs, donc c'est extrêmement bizarre. Didier mentionnait le fait que Erdogan dit tout le temps qu'il a dépensé 15 à 20 milliards d'euros pour l'entretien des réfugiés syriens. On en est maintenant à 35 milliards, au niveau chiffres, oui, à l'évidence, il y a quelque chose qui ne va pas.
Bon, il n'y a pas que les Turcs qui sont fâchés avec les chiffres. On voit ça aussi ailleurs. Et inversement, du point de vue du gouvernement turc, du point de vue d'Erdogan, comment l'opération d'Idlib est-elle justifiée, d'une part, et d'autre part, si ce n'est pas la même chose, quels sont, à votre sens, ses objectifs réels ?
Alors, lui, il le justifie avec beaucoup d'emphase en disant que la Turquie est aujourd'hui dans une phase historique comparable à la guerre d'indépendance qu'elle a menée contre les puissances étrangères qui, à l'époque de la chute de l'Empire ottoman, essayaient de se partager les lambeaux de l'Empire en perdition. Et donc, il présente ça, comme l'a dit Didier, parce qu'il y a une forte... Évidemment, il essaie de galvaniser la population dont il sait que il sait quand même qu'il a perdu depuis les élections municipales, il a perdu un peu de sa superbe. Et donc il y a toute cette emphase et puis de parler de l'Empire ottoman, Alep est à nous. Enfin, il le dit pas aussi clairement, mais dans les milieux islamo-nationalistes, c'est dit. Et il faut rappeler aussi que la Turquie est à Idlib, mais l'armée turque est aussi dans d'autres régions du nord de la Syrie et elle entend former une sorte de zone tampon comme ça, officiellement, pour empêcher l'établissement d'une région autonome kurde, pour repousser les Kurdes loin de sa frontière, en ayant peur que la volonté d'autonomie des Kurdes de Syrie contamine les Turcs de Turquie, voilà. Qui sont quand même nombreux et avec qui les choses ne sont pas simples. Mais bon, je pense que là-dedans, voilà, pour les gens, c'est loin. Pourquoi on est là-bas, on ne le comprend pas. Et à partir du moment où les soldats meurent, c'est plus admissible. Jusqu'où est la limite ? Le problème est de savoir jusqu'où ça peut aller, à partir de combien l'opinion peut se mobiliser dans un pays où, comme on l'a vu, si les gens essaient de protester, c'est tout de suite voilà, la main forte, on met en prison, on condamne, on tape.
D'accord. Juste une question, parce que moi je ne le sais pas. L'armée turque est une armée de métier ou c'est une armée de conscrits ?
C'est une armée de métier, mais il y a de plus en plus pour les opérations difficiles comme Idlib, ce sont des mercenaires, c'est-à-dire ce sont des gens de l'armée turque, mais ils se portent volontaires et ils ont une prime. Ils sont payés.
Vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur la composition de l'armée ?
C'est une armée de conscription, puisqu'il y a le service national.
Oui, de conscription, pardon.
Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est une armée à deux vitesses, c'est-à-dire que la grande masse de l'armée, parce que les Turcs disent toujours « nous sommes la deuxième armée de l'OTAN ». Alors, c'est factuellement juste en nombre, pas en termes de capacité opérationnelle, c'est très différent. Donc en réalité, la grande masse des conscrits, etc., sont dans des régiments où ils ne servent pas à grand-chose, sauf pour ce qui concerne l'entreprise idéologique de formatage de ceux qui passent par le service national. Et puis, par contre, il y a une partie de l'armée qui est moins nombreuse, qui est là composée de militaires engagés, notamment les forces spéciales qui sont aujourd'hui à la manœuvre dans la région d'Idlib et qui, elles, sont particulièrement efficaces. Donc ça, c'est une armée à deux vitesses.
D'accord. Alors on va revenir sur les images. On a vu tout à l'heure ce qui se passait en mer Égée à l'arrivée à Lesbos. On va maintenant se déplacer vers la frontière terrestre gréco-turque, d'où nous parviennent aussi, Linda, des images parfois confuses.
Alors, celle d'Anadolu, l'agence de presse étatique turque, elle a diffusé des images à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Et sur une vidéo datée du 4 mars, on voit des forces de l'ordre grec employer des canons à eau pour disperser les migrants. Ils essuient également plusieurs tirs de grenades lacrymogènes et sans aucune protection, ils sont recouverts d'une épaisse fumée blanche. Et malgré le danger, certains renvoient à coups de pied des grenades en direction de la police lorsqu'elles roulent sur le sol, comme on peut le voir.
Voilà, donc ça, c'est les images de l'agence turque.
Oui, et on a aussi des images de la chaîne TF1, donc toujours à la frontière gréco-turque, à Kastenies précisément. Les caméras TF1 ont recueilli les témoignages de migrants sur le point de franchir cette frontière. Mais sur place, la situation est confuse, si l'on en croit l'envoyé spécial sur place.
J'espère que la Grèce va nous laisser passer, car j'ai besoin d'aller en Europe.
Mohamed mise sur la promesse de la Turquie, celle de laisser passer ses migrants en Europe.
Contrairement à ce qui a été annoncé, la situation est plus confuse. À seulement 1 km du poste frontière, les policiers et les militaires turcs bloquent la route. Ils ont installé des grilles, les journalistes n'ont pas accès. Les demandeurs d'asile et les réfugiés, sont obligés de traverser les champs pour atteindre la frontière avec la Grèce.
Ils nous ont dit plusieurs fois, vous pouvez traverser la frontière, vous pouvez le faire, vous êtes 1000. Allez-y, ne restez pas là, détruisez tout et passez. Mais comment on pourrait faire ça? Je crois qu'ils se moquent de nous.
Bon, alors c'est vrai qu'on n'y comprend pas grand-chose. On a d'un côté ce témoignage recueilli par TF1 laissant penser que les Turcs incitent les migrants à partir en Grèce. Juste avant, on a un envoyé spécial de TF1 qui dit non, pas du tout, les Turcs font barrage. Vous, Marie Gégaud, vous avez vu une sorte d'organisation avec des bus qui partaient, avez-vous dit, à quelques centaines de mètres de la préfecture, ce qui laisse penser qu'il y a une organisation gouvernementale. Alors vous êtes allé sur place, donc qu'est-ce qu'ils font les militaires et les gardes frontières turcs? Ils incitent incite les migrants à passer? Comment ça se passe?
Bien sûr, ils les incitent à passer. Déjà, ils les ont laissés s'entasser dans cette zone qui s'appelle Pazarkoulé, côté turc, Kastaniès, comme ça a été dit dans le reportage, côté grec. Cette frontière, évidemment, ce passage est fermé. Là, ils sont massés, plusieurs milliers. C'est difficile de dire parce que donc les journalistes n'ont plus accès depuis dimanche dernier.
C'est les
Sauf les journalistes d'Anadolu et les journalistes des Téléturcs.
C'est les Turcs qui les empêchent d'accéder.
Voilà. Ouais. Les Turcs n'empêchent pas les réfugiés d'accéder.
Non, mais les journalistes. Ils empêchent les journalistes d'accéder.
Ils empêchent les journalistes, bien sûr. Hein. Et pas n'importe quel journaliste. Les journalistes turcs qui ne sont pas désirés et les étrangers qui, eux, sont toujours... indésirable. Et donc,
mais alors pourquoi, attendez, c'est quand même un peu incohérent. Pourquoi empêcher les journalistes étrangers d'accéder, alors que les journalistes étrangers pourraient voir la brutalité des gardes frontières grecs, donc ça pourrait aller aussi dans le sens des intérêts de la propagande turque?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, au début, ils l'ont fait. Au début, les journalistes avaient librement accès, pouvaient filmer. Tout le monde était, du côté turc, ils étaient très contents d'avoir la presse étrangère qui filmait. Mais à un moment, c'est devenu très violent. Après, ça pose aussi des risques probablement à l'ordre public. Vous avez des milliers de types qu'on excite, etc. Tout ça dégénère. Donc, à partir d'un moment, il y a une autre tactique qui s'est mise en place, qui a été de ne pas laisser la presse accéder et d'essayer de décourager les migrants qui étaient concentrés dans cette zone tampon et de les renvoyer vers le fleuve. Et d'ailleurs, ceux qui sont arrivés après, par bus, par minibus, etc., n'étaient plus envoyés vers le poste frontière. On leur disait qu'il fallait aller vers le fleuve, que c'est là où tout se passait. Et moi-même, dès que je suis arrivé à la gare routière d'Edirne, lundi, il y avait des migrants sur les pelouses de la garde routière, il y avait des policiers, certains en uniforme, d'autres en civil. Il y a un des policiers qui a montré une photo aux migrants qui étaient là, en leur disant, c'était la photo de personnes qui franchissaient des barbelés, on ne sait pas où. Et lui disait, vous savez maintenant, Pazarkoulé, c'est fini, il n'y a plus rien qui passe. Maintenant, il faut que vous alliez plus au sud. Donc, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que ces gens, qui doivent être à peu près, disons, 20 000, sont vraiment, c'est la patate chaude. Ils sont ballottés d'un côté, de l'autre. On leur dit, allez là, ils s'installent là. Par exemple, à quelques kilomètres du poste frontière, à un moment, il y a des camps qui se sont formés le long de la rivière. Et nous, à ce moment-là, la presse étrangère, on a eu la possibilité d'aller là et de travailler. Et puis, hop, au bout de deux jours, ça s'est terminé. La police turque est arrivée, ils ont fait dégager les journalistes. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Après, ce qu'on a su, c'est qu'il ne restait plus un seul réfugié dans la zone. Ils ont donc été repoussés parce que l'idée, c'était de les pousser plus vers le sud où il y a un autre poste frontière. Mais évidemment, il y a toute cette zone avec la rivière qui fait une frontière naturelle et les gens sont poussés vers le fleuve. Tout ça, alors évidemment, chacun fait son beurre, parce qu'il y a évidemment là les passeurs qui sont... alors la police fait comme si elle ne les voyait pas, les passeurs. Alors pour prendre un bateau et traverser le fleuve, c'est 50 euros. Le bus, en fait, qui devait être gratuit, finalement, souvent, ça a été 10 euros. Quand ils arrivent, on les laisse sur une route. Donc pour les amener jusqu'au fleuve, bon, bah, faut prendre un taxi, allez, bing, 15 euros. Donc ces gens sont vraiment... dépouillés, si vous voulez. Et quand ils ont la chance de passer côté grec avec le bateau ou par des moyens, certains ont attaché des cordes d'un bord et de l'autre, ont essayé de passer comme ça. Dès qu'ils mettent un pied de l'autre côté, évidemment, les Grecs sont sur le qui-vive, ils les attrapent, souvent ils les rossent, ils les tapent et surtout ils leur prennent toutes leurs possessions, c'est-à-dire leur sac de couchage, leur sac, leurs papiers surtout. Leur téléphone portable, leur argent, enfin c'est vraiment, c'est un crève-cœur ce qui se passe sur cette frontière, c'est inouï, c'est inouï.
Et ce qui témoigne bien à la fois de la dureté de ces conditions et de la difficulté des journalistes à travailler, c'est qu'il est extrêmement difficile d'avoir des informations précises, notamment il a été dit qu'au cours de ces tentatives de franchissement, un migrant avait trouvé la mort, Linda.
Oui, alors l'armée grecque tire-t-elle sur les migrants qui tentent de traverser illégalement sa frontière? C'est en tout cas ce dont l'accuse la Turquie, qui dénonce la mort de deux hommes et plusieurs blessés. La Grèce a de son côté opposé un démenti officiel. Pourtant, quelques chaînes comme TV5 Monde, France 5 et TF1 ont rapporté la mort d'un jeune Syrien de 22 ans à la frontière gréco-turque. On regarde notre montage.
Il s'appelait Mohamed, il avait fui la guerre en Syrie. Il y a quelques jours, l'espoir tant attendu. D'Istanbul, il rejoint la frontière comme des milliers d'autres migrants. Objectif, passer en Grèce. Les forces grecques tirent, il est blessé à la tête selon ses compagnons de route, puis transporté de l'autre côté de la rivière sur ces images non authentifiées devenues virales sur les réseaux sociaux. Un constat à l'arrivée, il ne respire plus. Mohamed pourrait être le premier mort à la frontière gréco-turque depuis que le président Erdogan a décidé de rouvrir le passage vers l'Europe aux réfugiés venus de Syrie et d'ailleurs, entraînant la colère d'Athènes.
Migrants d'un côté, police et armée grecque de l'autre. Les forces de l'ordre sont accusées par la Turquie d'avoir tué un homme. Il serait filmé ici avec un téléphone. La Grèce dément.
Il nous montre ce matin cette vidéo diffusée par les médias turcs où l'on voit un jeune réfugié ensanglanté à terre.
C'est mon ami, il est mort. C'est la police grecque qui a fait ça.
Mais les autorités grecques démentent cette information.
Alors, cette information sur la mort de ce jeune homme a été donnée par le quotidien français Le Parisien. Comment on fait pour vérifier une information pareille quand on est à Istanbul, Marie Gégaud ?
Évidemment, c'est difficile. Il y a toujours le risque d'une fausse nouvelle ou d'une vidéo qui a été traficotée. C'est difficile, c'est par recoupement. Sur le terrain, moi, personnellement, je n'ai pas rencontré les compagnons de ce jeune garçon, mais des collègues l'ont fait. Une autre collègue, qui est une personne fiable, a pu joindre sa famille en Syrie, qui a confirmé sa mort. Et ensuite, il y a les morgues aussi, il y a les hôpitaux, les morgues. Donc là, c'est possible, mais c'est difficile parce que... Enfin, là, en l'occurrence, ça arrangeait les Turcs, puisqu'ils avaient à cœur de dire que les Grecs... Mais je pense que c'est réel qu'il y a vraiment eu deux morts et plusieurs blessés. Les Turcs disent que ce sont des balles réelles. On ne sait pas si ce sont des balles réelles ou des balles de caoutchouc. Ce qui est sûr, c'est qu'ils tirent. Alors, qu'ils aient tué intentionnellement ce jeune garçon, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils tirent sur les rafiaux de fortune qui essaient de franchir le fleuve.
On est clairement dans une guerre de l'image. C'est quand même ça qu'il faut préciser. Et à aucun moment, les médias turcs ne peuvent être considérés comme des sources sérieuses. Ça, c'est quand même un point qu'il faut absolument préciser. Maintenant, dans le cas de ce jeune homme, j'ai publié sur mon compte Twitter une enquête hier qui a été publiée par une organisation qui s'appelle Forensic Architecture, qui a, je crois, étudié la chose assez précisément et qui conclut qu'effectivement, ce jeune homme a bien été tué par la police grecque à la frontière dont on parle. Il y a effectivement, comme vient de le préciser Marie aussi, des témoignages et des gens qui ont pu joindre la famille qui confirment cette mort. Il ne faut pas être surpris, encore une fois, des migrants tués à la frontière, que ce soit par la police grecque ou par la police turque, depuis 15 ans, on peut en dénombrer quelques dizaines. On pourrait aussi, là, je reviens vers la frontière entre la Syrie et la Turquie, je pense qu'il faut aussi, pour contredire un petit peu la propagande des médias turcs, s'intéresser aux Syriens qui sont tués en essayant de traverser la frontière. Plus de 400 l'année dernière, plus de 400 réfugiés syriens ont été tués par les forces de sécurité turques en essayant d'entrer en Turquie. Tous ces chiffres montrent que, encore une fois, on est dans une guerre de l'image et dans une instrumentalisation par tout le monde, sans faire de, je dirais, sans faire de distinction de ces drames humains. Voilà, et qu'aujourd'hui, effectivement, il faut quand même un tout petit peu de sérieux dans les sources et dans la manière de le documenter.
Je rebondis sur un point. Vous avez dit on ne peut pas se fier aux médias turcs. Très rapidement, selon vous, il n'existe aucun médias turcs fiables et indépendants du gouvernement aujourd'hui ?
Quasiment pas. Enfin, il en existe. Je connais des journalistes indépendants et fiables qui essayent de documenter ce qui se passe à la frontière, mais comme le rappelait Marie Gégaud tout à l'heure, ce ne sont pas ceux qu'on laisse accéder au terrain et ce ne sont pas ceux qu'on laisse filmer. Ce ne sont pas leurs images que ensuite le gouvernement exploite et diffuse au monde entier. On peut trouver évidemment des sources fiables dans les médias turcs. Il faut les connaître, il faut aller les chercher. Ce ne sont pas celles qui font le tour du monde en ce moment, en tout cas.
D'accord. Non, mais voilà, tout ce qui nous arrive de la frontière gréco-turque, en tout cas toutes les images qui nous arrivent sont plus ou moins sous le contrôle du gouvernement turc.
Évidemment, et depuis des années.
Oui, puis il y a quelque chose qui me vient à l'esprit dans ce débat, c'est que En réalité, il y a deux frontières qui sont concernées, c'est la Grèce et c'est la Bulgarie. Or, comme par hasard, sur la frontière bulgare, il ne se passe rien. Donc on voit bien la logique organisée de ces affrontements. Sur les morts, il y en aura d'autres. Il y a peut-être aussi des gens qui vont tomber de malaise, de stress, de je ne sais quoi. Ce n'est pas seulement des tirs. Nous sommes dans une situation de tension extrême. Et ce n'est pas déshumaniser les choses que de les présenter simplement avec la chair et le sang de ce qui se passe là-bas. Mais le deuxième aspect, donc sur la frontière turco-bulgare, il ne se passe à ma connaissance rien. Il n'y a pas de mouvement. Donc c'est la meilleure preuve que Erdogan, ou l'AKP, le parti de M. Erdogan, ont organisé sciemment en direction de la Grèce, parce que, comme Guillaume le rappelait tout à l'heure, nous savons qu'il y a des tensions récurrentes entre ces deux pays, et notamment au cours de ces derniers mois, qui n'ont aucun rapport avec la question des réfugiés, au demeurant, mais enfin, là, il y a conjonction de facteurs. A contrario, nous savons que M. Erdogan, il a quelques projets politiques en direction des Balkans. Donc il ne tient pas à se mettre à dos l'État bulgare, il tient au contraire à maintenir un bon niveau de relations en Bulgarie, d'autant qu'il y a quand même une minorité turque importante dans ce pays. Donc vous voyez, tout cela a un sens et une logique politique.
En deux mots, les projets d'Erdogan en direction des Balkans, c'est quoi ?
Ses projets, c'est de multiplier au maximum les contacts de type politique, de type économique. Il considère d'ailleurs, il le répète souvent, mais il n'y a pas que lui en Turquie qui dit cela, que la Turquie est entre autres un pays balkanique, ce qui factuellement est assez juste. On a vu par exemple un rapprochement assez spectaculaire avec la Serbie au cours des dernières années, alors qu'on se souvient que lors des dernières guerres balkaniques, Serbie et Turquie étaient dans deux camps opposés par proxy interposé. Donc voilà, c'est un projet politique. Alors voilà.
Peut-être un mot pour compléter ce que vient de dire Didier, c'est qu'effectivement, il y a six postes frontières entre à Edirne, il y a six postes frontières avec la Grèce et la Bulgarie, et seul un est concerné. Il se trouve que c'est un poste assez isolé. Moi, je le connais bien, je l'ai traversé clandestinement avec des migrants algériens il y a une dizaine d'années, donc cette route, je la connais par cœur. Et c'est effectivement un poste par lequel il n'y a quasiment aucun échange commerciaux. L'essentiel des relations, des exportations turques vers l'Union européenne, qui sont extrêmement stratégique pour la Turquie, passe par la frontière bulgare. Ce qui explique sans doute pourquoi la crise migratoire n'a pas touché ces postes-là.
Vous en tirez la conclusion que les cinq postes frontières, entre guillemets, sérieux, sont préservés des désordres. Et c'est ça ?
C'est une éventualité qui me semble à soulever.
Les cinq frontières utiles, on les laisse tranquilles et on concentre tout sur la frontière inutile.
Ça me semble important de souligner, ce poste frontière n'est pas un poste stratégique.
D'accord, non, mais c'est très intéressant et c'est effectivement quelque chose que les images ne disent pas. Alors, du coup, je voudrais qu'on termine sur un autre grand mystère qui sont, dans cette affaire, les rapports turco-russes. Parce que alors là, on n'y comprend pas grand-chose. On a tous en tête. Il y a peut-être rien à comprendre, vous allez me dire.
Si.
Il y a quand même à comprendre. Parce qu'on a tous en tête, si vous voulez, des images comme celles qu'on voit là, c'est-à-dire de rapports relativement cordiaux sur fond de marché d'armement entre les Russes et les Turcs. En même temps, on voit Erdogan affronter l'armée syrienne qui est soutenue par les Russes. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre ?
Mais c'est les joies du Moyen-Orient, je trouve. Bon, pour rester sérieux, évidemment, je pense que les relations entre la Turquie et la Russie sont assez nettes, sont très fluides, s'accroissent, tant au niveau politique confère le dossier syrien qu'au niveau économique. Il y a quand même un flux commercial important, une vingtaine de milliards de dollars chaque année s'échangent entre les deux pays. Nous savons, alors il y a eu le fameux déploiement d'une partie des missiles antimissiles S-400 de fabrication russe sur le sol turc, ce qui a suscité beaucoup de débats et de controverses, puisque c'est un pays de l'OTAN, la Turquie, qui accepte des systèmes d'armement qui ne sont pas encore activés, je le précise. Nous savons que la première centrale nucléaire turque est de construction russe. Donc tout cela indique quand même une intensité des relations.
Et économique.
Économique.
Et néanmoins.
Et politique. Sauf que sur Idlib, alors là, il faut revenir un tout petit peu en arrière, il y a eu ce qu'on appelle les accords de Sotchi entre la Russie et la Turquie qui datent de septembre 2018. Nous savons que Idlib, c'est une zone où se concentrent des djihadistes, puisque les djihadistes, à chaque fois, enfin, une partie des djihadistes, à chaque fois qu'ils ont subi des défaites militaires en Syrie, ont été envoyés après négociation vers la province d'Idlib depuis plusieurs années. Donc, mécaniquement, il y a concentration de djihadistes à Idlib. Et l'accord de Sotchi avait décidé d'aboutir à un cessez-le-feu dans cette région et de procéder à la démilitarisation de ces groupes djihadistes. Projet assez utopique, va-t-on dire. Mais c'est la Turquie qui s'était portée volontaire pour accomplir ces deux missions qu'avait bien voulu lui confier M. Poutine, car en réalité, c'est M. Poutine qui détient les fils principaux et les meilleurs atouts sur la question syrienne. Et là, je pense qu'il y a eu un jeu de dupes et que M. Erdogan, eh bien, pardonnez-moi l'expression, il s'est fait avoir. La différence entre M. Poutine, c'est qu'il raisonne toujours avec 3-4 coups d'avance parce que c'est un joueur d'échecs, et que M. Erdogan, il fonce, il fait du coup par coup, c'est un joueur de trick-track ou de backgammon, et il n'a pas de vision stratégique en réalité. Et donc, eh bien, ce qui devait arriver arriva, c'est que les Russes ont constaté que les Turcs n'étaient pas parvenus à imposer un cessez-le-feu, à désarmer les milices djihadistes, évidemment, et donc ont recommencé il y a plusieurs mois une campagne de bombardement intense menée par l'aviation russe et par l'aviation syrienne, en tout cas ce qu'il en reste. Et donc évidemment, cela explique ce mouvement de 900 000 à 1 million de déplacés qui, fuyant ces bombardements qui sont indiscriminés, qui tapent les écoles, les dispensaires, la population civile et qui sont partis vers le nord. Et c'est ça ce qui explique la cristallisation des problèmes.
Et alors pourquoi les avions syriens sont-ils mis à bombarder les soldats turcs ?
Ah ben parce que dans l'accord de Sotchi, il y avait le déploiement d'une dizaine de postes d'observation turcs en territoire syrien. Et donc il arrive un moment où devant l'avancée des troupes syriennes, les loyalistes à Bachar el-Assad, eh bien ces postes d'observation, certains d'entre eux se sont trouvés entourés, littéralement cerclés.
C'est-à-dire pourquoi... Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le bombardement d'unités turque par l'aviation syrienne est une erreur, est une bavure.
Ah non, c'est pas du tout une bavure. Je pense que c'est voulu, mais qu'à un moment donné, parce que les soldats turcs étaient quand même assez avancés sur le territoire syrien, vu que l'armée syrienne montait vers le nord, eh ben ces postes d'observation se sont retrouvés encerclés. Et d'ailleurs, le ministre de la Défense turque a dit...
Mais est-ce que les Syriens ont voulu bombarder les Turcs ?
Ben évidemment. Parce qu'eux, ils sont tous à leur reconquête du territoire. L'obsession de Bachar el-Assad, c'est de recouvrer son autorité sur la totalité du territoire syrien. Or, la seule poche importante qui reste et qui n'est pas contrôlée par son pouvoir, par ses troupes, c'est justement la province d'Idlib. Donc il faut la reconquérir. Et sur cette question, les Russes sont en parfait accord. Alors le problème, c'est que d'un côté, M. Poutine, il a un vrai partenaire, on l'a évoqué précédemment, c'est la Turquie. Et puis, par ailleurs, il a un véritable allié, c'est la Syrie. Alors là, il y avait une difficulté, ce qui explique la réunion entre Poutine et Erdogan hier. Chacun a voulu faire baisser la pression, surtout M. Poutine, qui aboutit à la proclamation d'un cessez-le-feu. Ça, c'est hier soir. Est-ce qu'il sera respecté ou pas ? Nous verrons bien. Mais il y a cette volonté de la Russie de ne pas rompre et son partenariat avec la Turquie et son alliance avec la Russie, avec la Syrie, pardonnez-moi.
C'est clair.
J'espère.
Autant que ça peut l'être. Autant que ça peut l'être.
Rappelons quand même que l'embuscade du 27 février, les soldats turcs ont effectivement été bombardés par l'aviation syrienne et par l'aviation russe. Oui. Ne l'oublions pas, il y avait deux avions de chaque. Hein, donc, et c'est principalement les bombes russes qui ont quand même fait le plus de dégâts parmi les soldats turcs. Je dirais, les accords de Sotchi de 2018, donc, qui ont été prolongés hein, en quelque sorte par le cessez-le-feu décidé hier soir, c'est un jeu de dupes communément accepté. Et d'un côté et de l'autre. Je veux dire, personne n'imagine qu'effectivement l'opération de reconquête, entre guillemets, du régime par le régime de la province d'Idlib va s'arrêter parce qu'il y a un accord avec la Turquie. Mais d'un autre côté, personne n'imaginait non plus que la démilitarisation des groupes djihadistes sous le contrôle turc allait s'effectuer tranquillement. Des deux côtés, il y avait un véritable jeu de dupes et une instrumentalisation de ces accords pour essayer, si vous voulez, d'abord l'objectif principal des deux, c'est d'éliminer les Occidentaux du jeu diplomatique. Et de ce point de vue-là, et Poutine et Erdogan ont prolongé cet état de fait depuis hier.
Il faut dire que les puissances occidentales ont beaucoup fait pour se disqualifier
absolument,
elles-mêmes.
Absolument.
C'est clair. Alors, je voudrais qu'on termine par une interprétation en provenance de France de tout ce qui se passe. Alors, puisque évidemment, toute cette affaire ne saurait laisser indifférent l'extrême droite française et notamment un de ses représentants les plus éminents à la télévision, Éric Zemmour, sur CNews, Éric Zemmour qui a on va le voir, une explication historico-personnelle de la situation.
Deuxième chose, il faut bien comprendre ce que je m'évertue à dire depuis des années, c'est-à-dire que les transferts de population sont les premières armes de l'humanité. C'est-à-dire que les migrations ont toujours été une arme. Erdogan, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce qu'on a toujours fait. Ce qu'on a toujours fait dans l'histoire, c'est-à-dire envoyer des masses de population pour déstabiliser un autre pays, pour remplacer une autre population. Les Turcs sont habitués de ça. Ils sont habitués. Ils ont fait ça avec les Grecs après la Première Guerre mondiale. Ils ont fait ça avec les Arméniens. Ils sont habitués. Ils mettent des populations islamisées à la place de populations chrétiennes. Ils font toujours ça, les Turcs.
Alors, ils ont toujours fait ça, les Turcs, Didier Billion.
Bah, écoutez, là, M. Zemmour, qui se prétend féru d'histoire, ferait bien de reprendre ses manuels, parce que quand il évoque les transferts de population entre la Turquie et la Grèce, il y a un fait historique. Mais ce n'est pas n'importe comment, ce n'est pas sur la volonté uniquement des Turcs, du jeune pouvoir turc à l'époque, c'est le traité de Lausanne, très clairement, qui organisait, il est vrai, entre autres choses, le transfert des Turcs qui vivaient en Grèce vers la Turquie et réciproquement des Grecs qui vivaient en Asie mineure vers la Grèce.
C'est Lausanne, 1900...
1923.
Ah oui, dans la foulée de la Première Guerre mondiale.
Absolument. Et donc, il y a eu 1 500 000 Grecs qui sont partis vers la Grèce et à peu près 400 000 Turcs qui vivaient dans la Grèce actuelle vers la Turquie. Ça, c'est un fait. Mais ce n'est pas le produit d'une volonté sans contrôle. C'est un traité à la suite de la guerre d'indépendance qui a été menée par Mustafa Kemal. Mais le poteau rose, il apparaît clairement. En fait, M. Zemmour est tout à son combat politique et idéologique, d'extrême droite, populiste, tout ce qu'on voudra. Et il le dit, je l'ai noté, mettre des populations islamisées à la place des populations chrétiennes. Il dit même un petit peu plus loin, c'est une véritable guerre qui est en train de se mener. Et bien voilà le fond de l'affaire pour M. Zemmour. Il y a une volonté d'islamiser l'Europe chrétienne et donc il faut mettre une sorte de mur qui entourerait l'Union, ce qui est une vue de l'esprit. Jamais il ne sera possible de juguler les flux, soit de réfugiés, soit les flux migratoires, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, par des murs ou des barbelés. Ça, c'est une vue de l'esprit.
Cette idée, pourtant, d'islamisation de l'Europe est quelque chose qui est totalement absent de l'esprit d'Erdogan, ou pas ?
Moi, je crois que oui. Enfin, j'ai pas envie de justifier effectivement ce genre de propos. Éric Zemmour est d'ailleurs l'allié objectif d'Erdogan. Oui. Pour moi, enfin voilà, ils ont une vision du monde et un fantasme d'une guerre de civilisation qu'ils partagent. Enfin, ils ont à peu près la même vision du monde. Maintenant, là où il instrumentalise une question, mais qui a quand même un intérêt historique qui mérite d'être soulevé, je pense. C'est effectivement une certaine tradition dans l'Empire ottoman, que l'on retrouve aujourd'hui chez Erdogan, de l'ingénierie démographique, ce qu'on appelle l'ingénierie démographique, c'est-à-dire effectivement des déplacements forcés de population au sein d'un espace géographique. Et ça, effectivement, sous l'Empire ottoman, depuis le XIXe siècle, mais pas nécessairement motivé par des raisons religieuses, mais plus par des équilibres ethniques, c'était effectivement une pratique extrêmement courante. On déplaçait les pomaks de Bulgarie, mais je veux dire, Staline a fait la même chose dans l'Union soviétique. Enfin, c'est pas quelque chose qui est motivé, si vous voulez, par une idée, un fantasme d'une guerre civilisationnelle de l'islam contre la chrétienté, ce que voudrait faire croire Éric Zemmour.
Un mot de précision, je suis radicalement d'accord, parce qu'au sein même de l'Europe, l'Europe centrale, on fête cette année le centenaire du traité de Trianon. C'est un autre traité, mais c'est tout à fait fascinant de voir les transferts de population organisés qui ont lieu à l'époque.
Le traité de Trianon, juste en un mot, puisque vous en avez dit un mot, concernait quelle population et quel pays ?
C'est toutes les populations d'Europe centrale, notamment ce qui est sorti de l'Empire austro-hongrois avec la constitution de la Hongrie moderne, etc. Et on sait bien qu'il y a des minorités hongroises qu'on retrouve dans différents endroits, encore aujourd'hui, et que ce sont des enjeux politiques, mais cela ne vient pas du ciel. Cela a été organisé à un moment donné.
Et donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce que vous appelez l'ingénierie démographique, c'est ça ?
Oui.
N'est pas une spécialité turque.
Pas spécifiquement, voilà, mais qu'effectivement Erdogan utilise aujourd'hui.
N'est pas réservé à la Turquie. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Je dis merci particulièrement à Linda, dont c'était la dernière émission, puisque tu vas nous quitter pour voguer vers d'autres, vers d'autres horizons. Et nous passons à la deuxième partie, puisque Laëlia Véron va venir s'installer parmi nous pour s'arrêter sur les mots que nous avons prononcés tout au long de cette discussion. Suspense.
Oh là là.
Alors, suspense insoutenable. Laëlia, bienvenue. Quels sont les mots de cet échange qui t'ont marqué ?
Je voudrais revenir sur des mots que vous avez employés et distingués vous-même. Vous avez évoqué l'importance de distinguer, par exemple, migrants et réfugiés, bien sûr, et réfugiés et déplacés. Et ce sont des mots autour desquels il y a toujours eu des batailles. Des batailles parce que ce sont des mots qui ont particulièrement une charge axiologique, idéologique, et aussi qui dessinent des camps. Ça a été évoqué, d'ailleurs, le camp des méchants et des gentils, avec, d'ailleurs, dans des situations qui sont bien plus complexes que ces oppositions binaires, je crois qu'on a pu le voir pendant le débat aussi. Et justement, cette tendance de ces mots à véhiculer ces charges idéologiques, ça va avec le fait qu'ils fonctionnent en duo. On parlait d'Erdogan à un moment qui évoquait la Turquie comme une forteresse. C'est aussi un duo qu'on rencontre tout le temps, forteresse et passoire. C'est toujours cette opposition. Ça pouvait être, c'est souvent employé pour parler de l'Europe dans ses discours politiques. Et ce phénomène de duo autour de ces mots pour parler de la migration, qui sont particulièrement idéologiques, ce n'est pas nouveau. Dans les années 90, juste petite parenthèse, il y avait l'opposition à clandestin et sans-papiers, avec l'idée que clandestin allait plutôt attirer l'attention sur le côté hors-la-loi, alors que sans-papiers, avec vraiment la préposition sans, ça attirait l'attention sur l'exclusion sociale et que du coup, ça véhiculait pas du tout la même chose. Et pour revenir sur l'opposition migrants-réfugiés, ça m'intéresse parce que ce sont aussi des mots qui montrent à quel point les connotations finalement font évoluer les dénotations. Au départ, on dit que la dénotation, c'est le sens stable du mot et que la connotation, c'est les valeurs qu'on y attache. Et là, la question des valeurs est tellement forte que ça fait évoluer même le sens premier du mot. Par exemple, au départ, le mot migrant, ça désigne n'importe quelle personne qui se déplace. Et pour parler de vacancier, on pouvait parler de migrant. Vous imaginez, par exemple, de dire qu'il y a beaucoup de migrants sur une plage, ça voulait vouloir dire les vacanciers. Et il y a eu d'ailleurs une polémique en 2018, je me rappelle, d'une députée à l'ERM, Mireille Clapto, qui disait lors d'un déplacement à Istanbul, elle avait fait un tweet, c'est à mon tour d'être migrante. Et forcément, elle s'était fait un petit peu allumer et elle avait dit que c'était les autres qui ne savaient pas de quoi ils parlaient parce qu'elle se référait à l'étymologie du mot. Ben, ça nous prouve bien justement que ces mots-là, eh ben, ils évoluent. Il y a une évolution politique, juridique, ça s'accompagne aussi d'une évolution médiatique. La distinction migrant-réfugié, elle a été aussi redéfinie, si je ne me trompe pas, par la Convention des Nations Unies sur les droits des travailleurs migrants, en distinguant, vous me corrigerez si je me trompe, mais les migrants, les personnes qui vivent dans un pays qui ne sont pas le leur pour des raisons économiques, politiques ou familiales, d'ailleurs pas touristiques, hein, comme le dirait Mireille Clapto, et les personnes réfugiées qui n'ont pas fait un choix, mais qui sont poussées par des circonstances dites exceptionnelles, guerre, calamité naturelle.
Mais ouais. Est-ce qu'entre les deux mots migrant et réfugié, il y en a un des deux qui te paraît avoir une connotation plus positive que l'autre ?
Alors justement, c'est que, et on pourra en discuter, c'est que cette distinction, elle a à la fois illustré, accompagné, parce que bon, c'est bien sûr des rapports complexes entre les deux, une évolution notamment dans la presse de ce duo avec une axiologie positive d'un côté, plutôt pour le mot réfugié, et une axiologie négative pour le mot migrant. Ça a été étudié en linguistique par une chercheuse Laura Calabrese qui a montré comment le mot migrant était associé à des mots négatifs comme illégal, comme vague, comme flux, comme mort, et aussi à des images, à des métaphores, naufrage, débordement et envahissement. Alors que dans le mot réfugié, il y a le mot refuge, donc il y a l'idée de refuge contre un danger, et la cause du départ paraît plus légitimée et éveille plus l'empathie. Et ce qui pose problème, c'est que du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut se battre pour bien parler de réfugiés quand il s'agit de réfugiés, puisque le mot a une connotation qui éveille plus l'empathie, qui serait plus précise ? Et en même temps, on a aussi montré le problème de cette bataille autour de ce duo, parce que c'est faire une distinction, en gros, entre les bons migrants et les mauvais migrants, et une distinction qui est compliquée. Parce que quand est-ce qu'on dit qu'il s'agit de choix personnels ? Quand est-ce qu'on dit qu'on est forcé par une cause extérieure ? C'est très complexe. Là, les causes extérieures, on dit, bon, guerre, épidémie. Est-ce qu'une situation économique, ça ne peut pas aussi devenir aussi quelque chose qui s'impose. En tout cas, enfin ça, voilà, moi je ne vais pas me prononcer sur ce débat-là, je vous laisserai peut-être réagir, mais ça montre bien comment ces mots-là sont particulièrement construits et la difficulté de faire la distinction entre des mots qui nomment, qui décrivent et des mots qui jugent, parce qu'on est tout le temps pris dans ces débats-là et dans ces distinctions binaires-là.
Alors effectivement, on met beaucoup d'idéologie derrière ces mots aujourd'hui, et ce qui induit une perte de sens, comme vous le disiez, un migrant, c'est quelqu'un qui voyage, donc il ne devrait pas y avoir de connotation négative à employer ce mot-là, à mon avis. Maintenant, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'emploie dans mon travail, le mot réfugié correspond non pas à un état de fait, mais à un statut. Le statut de réfugié, c'est un statut, ça induit une protection par la Convention de Genève. C'est donc quelqu'un qui dépose une demande d'asile et qui est reconnu comme étant un réfugié. Et ce terme, en aucun cas, ne peut convenir aux Syriens qui se trouvent sur le sol turc, puisqu'encore une fois, leur statut en turc, ils sont invités temporaires. La Turquie n'a pas signé pleinement la Convention de Genève. Les seules personnes qui peuvent être réfugiées en Turquie sont des ressortissants européens. Les Syriens ne peuvent pas être réfugiés en Turquie. Donc je pense qu'il est important de faire cette distinction. En Turc, on les appelle des invités temporaires, pas des réfugiés.
C'était parfaitement clair, merci. Juste un mot de la fin. Moi, j'ai remarqué une autre différence, c'est que tout au long de cette émission, il y a eu des partisans de Erdogan et des partisans dont vous étiez, Marie Jégot, de Erdogan.
Ah, je me suis posé la question aussi.
Est-ce qu'il y a une prononciation qui est plus canonique que l'autre? Est-ce qu'il y a un enjeu derrière la bataille de Erdogan et Erdogan?
Mais bon, comme je m'adresse à un public français, je dis Erdogan.
Pour les Français, mais les Turcs disent Erdogan, c'est bien ça.
C'est une autre question linguistique, des mots empruntés, étrangers, justement, est-ce qu'on les francise ou pas, mais...
Problème de prononciation. Bon, on entend le muezzin derrière vous, si je ne m'abuse.
Tiens, ça fait très fort d'émission.
Non, ça n'est que la bétonnière.
Les projections, Daniel, les projections. Voilà. Les projections romanesques.
Le projet, ça ressemble au muezzin. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci Laëlia. À la semaine prochaine.